C'est Radio France Internationale que vous écoutez, il est 18h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris, 20h30. Voici donc une nouvelle demi-heure d'informations consacrées à l'Afrique. C'est avec vous, Sylvie Berruyer, bonsoir.
Bonsoir à tous. Des divergences en République démocratique du Congo avant la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, prévu la semaine prochaine à Washington. L'opposition congolaise critique l'accord préliminaire. Le géant français de l'uranium Orano dénonce le projet de nationalisation par le Niger de sa filiale Somaïr et parle d'une spoliation des actifs miniers et d'une violation des accords avec Niamey. Nous y reviendrons avec Lisa Fabian dans ce journal. Au Rwanda, la principale opposante à Paul Kagame, arrêtée hier, Victoire Ingabire, est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État, ce qu'elle a nié en bloc lors de sa comparution. À Madagascar, une fête spirituelle est remplie d'émotions. Elle s'est tenue vendredi. L'ethnie Sakalave de Menabe, implantée sur la côte ouest de la grande île, a sacré son nouveau souverain. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Du sport et de l'athlétisme avec le meeting de la Ligue de Diamants de Paris au stade Charles. Nous appellerons Frédéric Suteau qui va suivre la prestation du Burkinabé Hugues Fabrice Zango, triple sauteur et qui avait pris la 5e place au JO de Paris. Et puis nous partirons au Festival des musiques Kenawa d'Essaouira en compagnie de Guillaume Thibault. Voilà pour le sommaire. Réunis à Washington le 18 juin, les experts congolais et rwandais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis, accord très attendu. Il doit encore être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La signature est attendue le 27 juin avant une possible rencontre au sommet en juillet, celle-ci en présence du président américain Donald Trump et peut-être d'autres chefs d'État africains. Mais du côté de l'opposition congolaise, aujourd'hui, les avis sont partagés à Kinshasa, Pauline Azidi.
Le premier à avoir réagi, c'est le docteur Denis Mukwege. Dans un long communiqué, il dénonce le caractère opaque et non inclusif de cet accord en négociation qui reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer le pillage et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile, écrit Denis Mukwege. Opacité dénoncée aussi par le camp de l'ancien président Joseph Kabila, qui estime que si un accord venait à être signé avant toute application, il faudra passer par un dialogue national. On ne peut contester aucune initiative qui tend vers l'intégrité du territoire, la souveraineté et la protection de la population, mais on devra en discuter, explique en effet le porte-parole du PPRD Ferdinand Kambéré. Du côté de Martin Fayoulou, qui a opéré ces dernières semaines un rapprochement avec le chef de l'État, on met en avant des points positifs, comme l'obligation faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, mais Prasse Pengue, porte-parole de la Mouka, de s'inquiéter aussi du fait que la RDC, je cite, « n'apparaisse que comme un grand gisement ». Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et au Rwanda voisin, la principale opposante au président Kagame a été arrêtée hier. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État en 2021. Elle nie cette affaire en bloc, l'a nié lors de sa comparution hier devant la Haute Cour. Paul Lorgerie.
Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est poursuivie pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Lorsque la nouvelle de l'arrestation lui est parvenue, l'opposant Bernard Taganda n'a pas tardé à se rendre au domicile de la prévenue pour constater les faits.
On a terminé la perquisition vers 21h30, 21h45. Donc 21h45, on l'a amené.
L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général du précédent parti de Victoire Ingabire. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions. Leur objectif présumé, le renversement du pouvoir. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants, ce qu'elle nie en bloc. Un cirque motivé politiquement qui n'est pas le fruit du hasard, selon Ian Edwards, l'un de ses avocats internationaux.
Sa peine allait prendre fin en octobre de cette année. Elle a reçu une grâce présidentielle en 2018 et jusqu'à la fin de la peine de 15 ans, la possibilité existe toujours pour les autorités d'annuler la grâce présidentielle et la remettre en prison.
La prochaine audience de Victoire Ingabire a été fixée le 7 juillet prochain.
Paul Lorgerie. Au Tchad, une nouvelle attaque a ciblé un village du sud du pays. Hier soir, des hommes ont ciblé le village d'Oregomel, à quelques kilomètres de Mandakao, où une quarantaine de personnes avaient été tuées au mois de mai après un conflit intercommunautaire. Il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Le bilan actuel est de 17 morts et de 17 blessés. Plusieurs représentants de l'État se sont rendus sur place ce matin. Des suspects auraient été arrêtés. Jeudi, le chef de l'État, Mahamat Deby, avait menacé les responsables des départements de la sécurité, de l'administration du territoire et de la justice de les remplacer s'ils ne remplissaient pas leur mission de sécurisation des populations. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir. Il est 18h35 en temps universel. Au Niger, le divorce consommé entre les autorités et la société française Orano. Lors du Conseil des ministres, hier, le gouvernement nigérien a annoncé la nationalisation de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, qui a démarré l'exploitation de l'uranium il y a près de 55 ans maintenant. Cette société est détenue à 63,40% par Orano et elle fait l'objet d'un contentieux important depuis bientôt 2 ans. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
Orano, présent dans le nord du Niger depuis 71, dénonce ce soir, je cite, une étape supplémentaire dans la volonté des autorités nigériennes de l'évincer du pays.
Dans son communiqué, Orano dit s'élever contre la politique de spoliation des actifs miniers, je cite, en violation des accords liant le groupe et l'État du Niger. L'entreprise française indique qu'elle entend réclamer la compensation de l'ensemble de son préjudice et faire valoir ses droits sur le stock correspondant aux productions de la Somaïr à date. Plus de 1300 tonnes d'uranium sont toujours conservées sur les sites de la société, un stock estimé à 250 millions d'euros. De son côté, Niamey reproche notamment à Orano de ne pas avoir respecté la règle de partage prévue dans l'entente et d'avoir exporté plus que sa part. Autre point de désaccord, l'arrêt des travaux d'exploitation depuis juillet 2023, le rapatriement de ressortissants français sans préavis ou encore la déconnexion du système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe. Orano précise ce soir se réserver le droit d'initier toute action complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tiers, en cas de préemption de la matière.
Merci Lisa Fabian. On reste au Niger où le dossier de Moussa Tchangari a été présenté devant la cour d'appel de Niamey. Ce matin, le collectif d'avocats qui représente cette figure de la société civile a plaidé la nullité de la procédure. Selon l'un d'eux, le procureur général est allé dans le même sens que la défense. Moussa Tchangari, arrêté le 3 décembre dernier, est le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen. Il est inculpé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la défense nationale notamment. Il est actuellement détenu à la prison de Filingué, à 180 km de Niamey. Le délibéré est attendu le 4 juillet.
RFI à Bangui. 99.8 FM.
Et sur RFI, on vous a parlé hier matin de la mise en œuvre de l'accord signé il y a 2 mois entre les autorités centrafricaines et les rebelles des 3R et de l'UPC. Nous sommes en Centrafrique, accord qui prévoit la réintégration des 2 grandes rébellions à Dominante Peul à l'accord de paix de 2019. François Mazet, vous nous avez expliqué que des réunions ont eu lieu en ce moment au niveau local entre chefs rebelles, autorités civiles et militaires centrafricaines et les Russes de Wagner. Et hier, justement, l'une de ces rencontres particulièrement symbolique s'est déroulée dans le centre du pays.
Cette rencontre s'est déroulée à Maloum, à une cinquantaine de kilomètres de Bambari, dans la Waka. Des photos ont circulé, on y voit un des principaux chefs militaires de l'UPC, le général Amadou Bungous, et ses hommes posés avec ceux de Wagner, menés par Dimitri Podolski. Dimitri Podolski est une personnalité centrale dans le dispositif russe en Centrafrique car il a un rôle de conseiller à la sécurité à la présidence de la République, donc directement auprès du président Touadéra. Alors que des tractations ont lieu entre Moscou et Bangui pour faire évoluer le dispositif russe dans le pays, aller vers un remplacement de Wagner par Africa Corps. Cette rencontre montre l'implication directe de Wagner dans les tractations en cours avec les rebelles, rappelant que le groupe avait déjà joué un rôle clé lors de la conclusion de l'accord de Khartoum en 2019. Des réunions de ce type ont lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays. Elles ont pour but de s'assurer de cesser le feu au niveau local, de permettre la libre circulation des rebelles dans l'attente de l'organisation de leur cantonnement et de de leur désarmement qui n'ont pas encore commencé. Selon les autorités centrafricaines, l'UPC devrait disposer de 8 sites de regroupement et 6 autres pour les hommes des 3 airs.
Au Cameroun, le ministre d'État Jacques Famdongo réagit à la lettre ouverte des élites de la région sud dans laquelle il appelle la population de la région d'origine du président Biya à s'engager pour le changement en vue de la présidentielle d'octobre. Le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, lui-même natif de cette région, déclare « Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique ». Fin de citation. À Madagascar, c'est une fête spirituelle riche en émotions qui s'est tenue vendredi. L'ethnie Sakalav du Ménabé, implantée sur la côte ouest de la grande île, a sacré son nouveau roi. Il s'agit de Georges Area Kamam, 61 ans. Il est l'arrière-petit-fils du roi Touer, chef du peuple Sakalav décapité par l'armée coloniale française en 1897. Récit de cette journée avec Sarah Tétou.
C'est par deux coups de fusil que la cérémonie d'intronisation a démarré ce matin. Deux tirs pour avertir l'univers de l'arrivée d'un nouveau souverain. Très vite, les habitants des environs ont afflué aux côtés d'invités de marque, notables, princes et princesses d'autres ethnies, vers la rive du fleuve Tiribine, au son des chants et musiques sakalav, pour assister au rite de l'onction des ancêtres. Georges Kamam, tout de rouge vêtu, s'est ensuite rendu au tombeau royal, raconte-t-il.
On est rentré dans ce temple, s'incliner devant les 11 reliques de nos aïeux, et on m'a mis face à un zébu. Et c'est là que une personne du collectif royal habilité à tenir un sabre a évoqué un par un mes aïeux défunts en tapant sur le zébu. Et c'est juste après ça que le peuple a crié « Nous avons un nouveau roi ».
Des cris, des larmes et surtout une joie intense et profonde, confie Bertrand Ranir, membre du collectif royal Sakala.
Le moment le plus marquant de cette journée, c'est quand nous avons hissé notre roi au rang d'empanite, celui qui tranche, quand nous l'avons aiguisé à la manière d'une lance pour le rendre fort et qu'il puisse transpercer l'univers.
La cérémonie s'est poursuivie jusqu'à la tombée de la nuit, au rythme des chants sacrés et des tambours, jusqu'à ce que les portes du tombeau soient refermées par les dades, les intercesseurs des défunts souverains, comme pour marquer l'ouverture d'une nouvelle page. Sarah Tétou, Antananarivo, RFI.
Alors sur fond de querelles familiales et de ce conflit de succession, c'est finalement Georges Kamami qui a été choisi, âgé de 61 ans, celui qui a quitté sa terre natale à 20 ans pour obtenir son diplôme d'officier de marine marchande en Russie, puis qui a poursuivi sa carrière en France, revient donc accomplir son destin sur la terre de ses ancêtres. Et il raconte au micro de Sarah Tétou.
Vous savez, j'habite en France depuis une quarantaine d'années. Et semble-t-il que le peuple sakalav du Ménabé attendait mon retour, attendait ce sacre. Cette décision qui semble un peu étrange peut-être pour les résidents à Madagascar a surpris tout le monde. Pourquoi un prince qui est absent depuis des décennies est légitime pour diriger le peuple sakalav? Moi, je n'ai pas la réponse. Ça, c'est la décision des sakalav. Hein.
Et cette décision des sakalav de vous choisir, vous, Georges Kamam, fils, a été guidée, dites-vous, par les dades, les esprits des ancêtres qui vous protègent aujourd'hui.
Oui. En fait, dans la croyance sakalav, quand les rois meurent, ils ont un pouvoir d'habiter ou de posséder une personne avec qui la famille vivante a une occasion de communiquer, de demander des bénédictions. Avant même que je quitte la France, les esprits des ancêtres étaient toujours là à éclaircir ma venue à Madagascar, à m'écarter de tous les dangers, à me bénir, à prier tous les jours pour que cette intronisation se fasse dans une atmosphère de quiétude, de paix et de sacralité.
Depuis ce matin, vous êtes donc devenu ce qu'on appelle un empanite, un roi. Quelles vont être vos fonctions exactement dans un pays, on le rappelle, qui compte encore différents royaumes traditionnels, mais qui est officiellement une république démocratique depuis 1960?
Qu'est-ce qu'on attend d'un roi sakalav en 2025, à la veille de la restitution? C'est de faciliter dans les rites traditionnels le retour de ces trois crânes sakalav suivant strictement les rites de la culture sakalav.
Autrement dit, sauvegarder, préserver, hein, c'est ça l'authenticité de l'identité historique et spirituelle des sakalav.
Voilà, déjà sur le respect du contact avec les reliques, même le souverain n'a pas le droit de toucher les reliques. Il y a des gens qui sont habilités à toucher les reliques, notamment les porteurs de reliques. Il y a aussi ce qu'on appelle les pitouks, c'est-à-dire un initié, pour évoquer l'esprit des trois souverains avant le départ de Paris. Ça, c'est très important dans la culture sakalave. Donc, moi, la famille, le collectif royal sakalave, espère que parmi les membres du comité mixte qui iront jusqu'à Paris, il y aura trois porteurs de reliques, un pitouk, c'est-à-dire le maître de cérémonie traditionnel, et deux ou trois membres de la famille royale.
Ampanitou Georges Kamam, merci beaucoup.
Voilà, Georges Kamam qui a donc été choisi, qui est âgé de 61 ans, donc le nouveau roi. Il répondait aux questions de Sarah Teto, notre correspondante à Madagascar. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés en Afrique de l'Ouest. Malgré les principes de libre circulation dans l'espace EDAO, de nombreuses personnes se retrouvent sans statut, sans papier après avoir fui leur pays, puis traversé plusieurs frontières. Juliette Dubois a rencontré l'un de ces demandeurs d'asile. Il est installé aujourd'hui à Dakar.
Depuis plusieurs années, Lucas Stokpa vit dans cette petite chambre à Dakar.
C'est la chambre qu'elle a.
Cet Ivoirien de 35 ans a obtenu le statut de réfugié au Libéria en 2011 après la crise ivoirienne. Mais en 2016, Lucas doit quitter son pays d'accueil à cause de l'épidémie d'Ebola. Il se retrouve au Sénégal.
J'ai choisi le Sénégal parce que c'est un pays francophone où je pouvais m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et un pays CDAO où je pouvais avoir plus de chances, comme je le pensais. Mais malheureusement, arrivé ici, ils m'ont amené encore, malgré tous ces documents qu'ils m'ont donnés, ils m'ont amené à reprendre encore la procédure de statut réfugié.
Au bout de 3 ans, on lui refuse, sous prétexte qu'il ne peut pas avoir le statut de réfugié 2 fois. Il a peur de représailles s'il retourne en Côte d'Ivoire et tous ses papiers et récépissés ont expiré.
Aujourd'hui, je ne possède rien. Même pour le contrôle de la police, je suis toujours pris et je suis obligé de payer de l'argent pour qu'on me libère. Je suis en situation irrégulière, rien comme papier. Je ne peux signer aucun contrat au Sénégal, je ne peux travailler même dans aucune société.
Dans une pochette, il garde précieusement les correspondances qu'il a adressées à différentes autorités.
Tous les ambassadeurs ont été au courant de tous ces trucs-là, où j'ai écrit. Ça, c'est l'ambassade du Canada. Ça, c'est audience demandée au procureur.
Pour se faire entendre, Lucas manifeste aussi régulièrement devant les bureaux du HCR à Dakar avec d'autres dans la même situation, espérant qu'un jour, son statut et son histoire seront enfin reconnus. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI, 20h47, ici à Paris. Il y a de l'athlétisme ce soir, avec en ce moment le meeting de la Ligue de Diamants de Paris. C'est au stade Charletti. La plupart des acteurs des derniers Jeux Olympiques de l'an passé sont là, notamment Hugues Fabrice Zango, triple sauteur burkinabé qui avait pris la 5e place à Paris. Frédéric Sutou, vous êtes sur place dans la chaleur torride de Paris. Est-ce que le burkinabé est dans un grand soir ?
Eh bien oui, Sylvie, il est dans un grand soir, Hugues Fabrice Zango. Le triple saut, c'est l'une des premières épreuves, hein. Il y en aura d'autres là tout au long de la soirée, mais il vient de taper du poing sur la table, on va dire, son 4e essai, il en a encore 2, et il a pris la tête du concours, Hugues Fabrice Zango, 17 mètres 21 pour son triple saut. Depuis le début de la saison, c'était compliqué pour lui, hein. Il avait longtemps coupé après les Jeux Olympiques de Paris et ces dernières semaines, il ne parvenait plus à passer les 17 mètres, 3 premiers essais poussifs, 16,83 pour le meilleur. Et puis là, au 4e, on a retrouvé le grand Hugues Fabrice Zango qui nous a annoncé cette année, bien qu'il s'agissait de la dernière. Hein, il prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Mais il a encore quelques beaux triples bons dans les jambes, bien parti pour remporter ce concours. Lui qui s'entraîne en France, qui s'entraîne autour de Paris et qui va monter en puissance, on en est sûr, tout au long de l'été.
Merci beaucoup Frédéric Sutou en direct du stade de Charletti. On vous retrouvera un petit peu plus tard peut-être pour d'autres disciplines. On verra bien. Pour l'heure, il est 20h48 ici à Paris. Et les titres de l'actualité, c'est avec vous Philippe Le Caplin.
Oui, avec un nouveau fléau qui s'abat sur l'Iran puisqu'un séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a secoué le nord du pays. L'Iran où s'abattent des missiles israéliens, Israël où s'abattent des missiles iraniens. Et Israël doit se préparer à une campagne prolongée, avertit le chef de l'armée israélienne. Mais pour faire taire les armes dès maintenant les pays européens présents à l'Iran. Lors d'une réunion en Suisse, une offre de négociation complète, notamment sur le nucléaire, annonce faite par le président français en vue de mettre fin à ce conflit. La guerre que mène Israël contre le Hamas à Gaza maintenant, journée particulièrement meurtrière car l'armée israélienne a procédé à de nombreux tirs et bombardements contre la population enfermée et affamée. Au moins 60 victimes, la majorité des victimes venaient chercher de l'aide alimentaire. Et on repart en Afrique du Sud.
Oui, pour la suite de notre série, la suite et la fin de notre série passionnante consacrée aux opérations menées en Afrique du Sud pour protéger les rhinocéros. L'Afrique du Sud qui vient de donner 10 rhinos noirs au Mozambique selon un accord signé avec Maputo en 2014 sur la politique de conservation du parc Kruger, un parc immense, hein, il chevauche la frontière, il fait partie avec le Zimbabwe du nouveau parc transfrontalier du Grand Limpopo. Et cette collaboration permet de déplacer les animaux sauvages d'un pays à un autre pour repeupler les parcs et rééquilibrer l'écosystème. C'est un reportage de Valentin Hugues.
La respiration que vous entendez, c'est celle de Billy, un rhinocéros sud-africain, une femelle d'environ une tonne placée dans un box en métal, direction le Mozambique.
Okay. Normalement, on ne donne pas de nom à nos animaux, mais ils en auront un pour le transport. Si quelque chose se passe mal sur la route, on doit pouvoir les identifier.
Bouyissa Radebe travaille pour SMVelo KZN Wildlife, l'organisation qui gère les parcs publics de la région. Elle est venue assister à cette opération hors norme.
Le déplacement en lui-même est très éprouvant, mais on sait pourquoi on le fait. C'est pour leur survie. Nous avons besoin d'avoir plein de petits Billy partout dans le monde. Et j'ai hâte d'entendre leurs histoires.
Et c'est tout l'objectif. L'Afrique du Sud, et particulièrement ce parc, Rukulwe, c'est le berceau des rhinocéros africains. Anthony Alexander et la fondation Peace Park coordonnent donc des relocalisations d'animaux sauvages.
Peace Parks n'a commencé à soutenir le gouvernement mozambicain qu'il y a 10 ans. On devait d'abord prendre le temps de rétablir les bons systèmes de sécurité là-bas et de s'assurer que l'environnement était adapté pour faire venir les animaux sauvages.
Des transferts qui se multiplient ces dernières années, notamment grâce à des techniques qui évoluent, explique Kesta Vikri de la fondation Conservation Solutions. Il rentre à peine du Rwanda où il a déplacé 70 rhinos sud-africains en avion.
Nous pouvons maintenant déplacer des animaux en large groupe sur une durée de 48 heures, en toute sécurité. C'est plus ou moins le temps qu'il faudra pour déplacer ces rhinos jusqu'à Zinave.
Zinave, c'est le parc mozambicain qui s'apprête à recevoir Billy et les autres. Pendant près de 40 ans, ce parc n'avait plus aucun rhino. Ils sont de retour depuis peu grâce à une autre opération de ce genre.
Je représente la Wildlife Mozambique Alliance et le pays en général.
Drapeau mozambicain brodé sur sa veste, le vétérinaire Agnasio Chiponde s'apprête à prendre la route.
Nous cherchons à développer notre population de rhinos. Je suis fier de faire partie de l'équipe.
Les 10 rhinocéros sont arrivés sains et saufs à Zinave. L'objectif, c'est donc de faire grandir cette population pour ensuite en envoyer dans d'autres parcs du Mozambique et ainsi repeupler le pays tout entier. Valentin Hugues, de retour de Rukulwe, RFI.
Et direction à présent le Maroc, on va faire escale à Essaouira, cette ville mythique collée à l'océan Atlantique où se tient ce week-end le festival Gnawa, 26e édition. Un événement qui met en avant la tradition séculaire, qui mêle chant, musique et danse, un patrimoine du continent africain qui était en train de disparaître il y a 30 ans, plongé dans la transe Gnawa avec Guillaume Thibault, lui aussi en transe, notre envoyé spécial à Essaouira.
Pour pénétrer l'univers Gnawa, il faut ce son, cette vibration basse du Gembri. Cette tradition mystique qui aujourd'hui rayonne et fait la fierté d'un peuple reste néanmoins méconnue, une part de magie, estime le chanteur de Marrakech, Fed Ben Chemsi.
C'est archaïque et magique. Là, la magie, elle est qu'on a 5 siècles de creux dans l'histoire des Gnawa, du 15e au 20e. Dans les vagues d'esclavage qu'il y a eu, ils étaient ou esclaves ou soldats, contre leur gré, bien entendu. Personne ne détient la vérité sur les Gnawa. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais », il ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de vérité.
«
Le Maalem Abdel Slam Ali Khan est le coprogrammateur du festival, un doyen qui porte et défend les valeurs de la tradition, notamment la valeur thérapeutique de la musique.
La tradition gnaoui, quelqu'un qui est malade, ou dans, qui, s'il y a quelque chose comme ça, on fait une parade pour inviter les gens, et les esprits, et la vie, et tout ça. Ça, c'était l'histoire, c'était une culture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sortir de notre cœur.
Patience et persévérance ont permis à Essaouira et à la culture gnawa d'être classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un joyau à partager, estime Abderrahmine Barthaye, le directeur général de la Société de développement local Essaouira, culture, art et patrimoine.
Gnawa, c'est un patrimoine universel, donc ça appartient à tout le monde. Vive la culture, c'est grâce à la culture qu'on arrive à comprendre l'autre, que l'autre arrive à nous comprendre, on vivra ensemble.
Spiritualité, partage, respect, ADN de l'identité gnawa, comme sur ce titre interprété à Essaouira sur la grande scène Moulay Hassan par le Maalem Hamid El Kasri et la chanteuse Abirel Abed.
La transe gnawa, nous sommes au festival d'Essaouira. Merci à Guillaume Thibault de nous faire vivre ce festival un peu comme si on y était, ici dans nos studios, ici les Moulineaux. Merci de nous avoir suivis à la réalisation ce soir. Raphaël Lazizi, merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, Philippe Le Caplain nous présentera le sommaire de la soirée qui va suivre.
RFI.
Dans 10 minutes, Ici l'Europe recevra Philippe Etienne, ambassadeur de France, qui fut en poste à Washington et à Bruxelles. Après le journal de 1h, c'est pas du vent avec la lutte contre la désertification qui s'organise, avec un reportage réalisé au Cameroun sur My Farm Trees, avec un éclairage du fondateur et président de CARI, association de lutte contre la désertification et pionnière de l'agroécologie. Priorité santé après le journal de 3h. Comme chaque vendredi, un médecin spécialisé répond aux questions des auditrices de Priorité santé. Cette semaine, il sera question des grossesses multiples. C'est une période sensible pour la femme, elle l'est d'autant plus lorsqu'elle est multiple, c'est-à-dire que la femme attend des jumeaux, des triplés, voire plus. 8 milliards de voisins, ce sera au milieu de la nuit, après le journal de 4h, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Il faut savoir que la France a promulgué près de 120 textes sur l'immigration, soit en moyenne une loi tous les 2 ans. Vous en saurez plus donc tout à l'heure en écoutant 8 milliards de voisins sur RFI Radio France Internationale.
L'atelier politique,
Frédéric Rivière.
La guerre en Ukraine, le partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dessinent-ils un nouveau monde? La France est-elle entendue dans ce grand désordre mondial? Ce sont quelques-unes des questions que je poserai à Jean-Luc Mélenchon, qui est mon invité ce samedi.
L'atelier politique avec Frédéric Rivière. Tous les samedis à 19h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.